les hommes vivront d'amour. Ce sera la paix sur la terre, les soldats seront troubadours, mais nous nous serons morts, mon frère.
Dans le cadre de leur série Les Chemins de l'Histoire, Daniel et Jean Fleury vous présentent deux émissions consacrées à un mouvement pacifiste nîmois original, la paix pour le droit.
Il n'y aura plus de misère, et comment seront les beaux jours, mais nous nous serons morts, mon frère.
Aujourd'hui, les jeunes amis de la paix, 1887-1912. Et nous serons accompagnés par Boris Vian et Mouloudji.
En 1830, une première organisation pour la paix voit le jour à Genève et dans les années 1840, les premiers congrès des Amis de la paix universelle se réunissent à Londres, Bruxelles puis Paris pour créer une union pacifique entre les puissances par un arbitrage international et le désarmement.
En avril 1887, 7 élèves de la classe de philosophie du lycée Daudet décident de créer une association des Jeunes Amis de la Paix. Issus de la bourgeoisie huguenote, ils appartiennent au courant orthodoxe évangélique de Charles Babu, un des 6 pasteurs de Nîmes. Revenu d'un voyage en Angleterre où il a rencontré des Quakers, leur meneur, Louis-Auguste Bernier, adopte un pacifisme absolu, décidant même, par scrupule religieux, de se soustraire à la conscription en passant à l'étranger. Depuis 1872, en effet, la loi Cisset rendait le service national obligatoire pour 5 ans, ou bien de 6 mois à 1 an selon le tirage au sort. Refusant aux militaires le droit de vote, l'armée était devenue la grande muette.
Le groupe de Daudet comprend également le vice-président, Henri Babu, né en 1871, le fils du pasteur et futur pasteur lui-même, ainsi que de futurs négociants juristes ou enseignants, comme Jules Prudhomeau, né en 1869, le secrétaire de l'association.
La naissance des Jeunes Amis de la Paix coïncide avec le développement du mouvement coopératif par les 3 fondateurs de l'école de Nîmes, Auguste Fabre, Emmanuel de Boive et Charles Gide. Si Gide exprime un soutien critique au mouvement, enthousiaste, l'ancien économe du familistère de Guise, Auguste Fabre, transmet à ses jeunes amis son idéal communautariste fouriériste, son féminisme et sa conception du désarmement par transformation des armées permanentes en milices nationales. Aidé par le pasteur Babu, nos 6 étudiants font donc l'Association des Jeunes Amis de la Paix, dans laquelle Fabre s'implique aussitôt. Fortement marqué par son influence, Jules Prudhomeau consacrera d'ailleurs sa thèse en 1907 à la communauté utopique d'Icarie et à son fondateur Étienne Cabet, qui en 1840 se définissait comme communiste chrétien.
Dans le même temps, la Baie nîmoise, lancée et financée par Édouard de Boive, devient une coopérative importante qui absorbe diverses coopératives comme la Solidarité et la Renaissance, ainsi que des associations nîmoises dont l'Association des Jeunes Amis de la Paix, accueillie dès mars 1888 en conférence publique dans la salle de la Baie nîmoise.
En Cagne à Henri IV, avec, en 1887-88, Jules Prudhomeau y oriente vers le pacifisme son collègue Théodore Huyssen, né en 1868, catholique détaché de la religion. Normalien, ce dernier fera un séjour en Allemagne après son agrégation de philosophie et rencontrera à Munich, en 1894, l'animateur de la Société allemande pour la paix et futur député bavarois, Ludwig Quidde. Désormais convaincu, il influencera le groupe Nîmois.
En 1889, en pleine affaire Boulanger, se tient à Paris un premier congrès universel de la paix. La loi Freycinet fait passer alors le service militaire de 5 à 3 ans, ou seulement un an selon le tirage au sort. Par contre, elle supprime les dispenses de service aux enseignants, aux élèves des grandes écoles et aux séminaristes.
En 1891, un congrès universel pour la paix se réunit à Rome, où le Suisse Friedrich Bager fonde et préside un bureau international permanent de la paix. Ce bureau s'établit à Berne afin, dit-il, de coordonner les activités des différentes sociétés de paix et de promouvoir le concept de résolution pacifique des conflits internationaux.
Cette même année, s'inspirant de ses idées juridiques et internationalistes, voire positivistes, les Jeunes Amis de la Paix donnent des statuts à leur mouvement. Évitant les querelles théologiques, ils ne se réfèrent ni au christianisme ni au socialisme utopique. L'article 4 précise « L'action de l'association ne sera pas limitée par des considérations politiques, religieuses ou autres. Source de leur engagement, le christianisme ne fait donc pas partie de la doctrine qui s'adresse à tous les milieux religieux ou non. Ils rejettent de même le pacifisme absolu de leur premier président. Les membres actifs ou adhérents prennent l'engagement moral de se soumettre aux lois militaires de leur pays s'ils n'y ont pas encore satisfait. »
Ils obtiennent ainsi le patronage de Jules Simon et surtout celui de Frédéric Passy, 1822-1912, qui, cofondateur en 1855 de l'Alliance universelle des Young Men's Christian Association et en 1867 de l'Association française pour l'arbitrage entre les nations. Cette figure importante du pacifisme français accepte en octobre 1891 la présidence d'honneur de leur groupe. Et dans un article écrit dans leur revue, il les présente comme des jeunes qui, à la chaleur d'âme et à l'ardeur de leur âge, savent joindre, chose rare, le sérieux, la réflexion, le tact et la mesure. « Nulle part, ajoute-t-il, je n'ai vu mieux compris et mieux pratiqué ce double devoir, être prêt à défendre, si cela est nécessaire, au prix de tous les sacrifices, son pays dans la guerre, et ne rien négliger pour le défendre aussi longtemps que l'honneur le permet, et pour défendre avec lui le reste du monde contre la guerre. »
En 1895, l'association prend son nom définitif, La paix par le droit, du titre de leur revue tirée à 3000 exemplaires et suggérée dès 1893 par le pasteur Charles Babu. Association de propagande, elle a pour but explicite de vulgariser en les étudiants les solutions juridiques des conflits internationaux. À travers l'évolution de cette association où milite son fils, le pasteur Babu évolue lui-même vers la théologie libérale et tout ce petit groupe s'engage résolument du côté du colonel Dreyfus, injustement inculpé.
Tandis que, devenu professeur à Sens puis Paris, Jules Prudhomot épouse la nièce de Jean-Baptiste Godin, créateur du familistère de Guise. De retour à Paris, Ruyssen collabore à la paix par le droit et en prend la présidence en 1897, présidence qu'il conservera jusqu'en 1948. Parallèlement à ses activités pacifistes, il est nommé en 1907 professeur de philosophie à l'université de Bordeaux. Disciple de Kant, il fait du projet de paix perpétuelle sa référence fondamentale et oppose un pacifisme rationnel au pacifisme sentimental. Pour prévenir les guerres, il faut éduquer les esprits dès l'école, dénoncer le chauvinisme de la grande presse populaire, tout en agissant sur les gouvernements pour les convaincre de mettre en place une juridiction internationale. Ruyssen sera bientôt professeur à la rue d'Ulm à Paris.
la crainte d'une guerre mondiale s'accroît. En 1899, sur initiative de la Russie, se réunit à La Haye la première conférence internationale. Y sont réunis 26 États, dont 19 Européens, pour la recherche des moyens les plus efficaces d'assurer à tous les peuples les bienfaits d'une paix réelle et durable. Le député catholique Frédéric Passy, 1822-1912, participe à son organisation, tandis que Léon Bourgeois, 1851-1925, autre figure française du pacifisme juridique et théoricien du solidarisme, fait partie de la délégation française qui réclame avec succès l'introduction d'un tribunal international pour régler les conflits, mais sans parvenir à définir les cas obligeant les signataires à y avoir recours. L'initiative est aussitôt saluée par la revue « La paix par le droit », qui appelle à aller plus loin dans la réalisation d'un ordre juridique international en constituant une véritable Société des Nations, déjà réclamée en 1893.
En 1901, Frédéric Passy reçoit le prix Nobel, le premier prix Nobel de la paix, avec Henri Dunant. Tandis qu'en avril 1904, La paix par le droit est chargée d'organiser à Nîmes le deuxième congrès national pour la paix. Sous le patronage de Ferdinand Buisson et des grandes organisations républicaines, s'y côtoient des militants issus d'une quinzaine de mouvements hétérogènes, apôtres religieux de la non-violence, figures de proue du féminisme, partisans de l'arbitrage international, mais aussi syndicalistes révolutionnaires. De fait, le pacifisme est surtout mené alors par la gauche socialiste et syndicaliste, et des contacts sont d'ailleurs pris par l'association avec le mouvement ouvrier.
Monsieur le Président, je vous fais une lettre que vous lirez peut-être si vous avez le temps. Je viens de recevoir mes papiers militaires pour partir à la guerre avant mercredi soir. Monsieur le Président, je ne veux pas la fête, je ne suis pas sur terre pour tuer des pauvres gens. C'est pas pour vous fâcher, il faut que je vous dise, ma décision est prise, je m'en vais déserter. Depuis que je suis né, j'ai vu mourir mon père, j'ai vu partir mes frères et pleurer mes enfants. Ma mère a tant souffert qu'elle est dedans sa tombe et se moque des bombes et se moque des vers. Quand j'étais prisonnier, on m'a volé ma femme, on m'a volé mon âme et tout mon cher passé. Demain de bon matin, je fermerai ma porte au nez des années mortes, j'irai sur les chemins.
Si Jaurès ne semble pas avoir de relation directe avec la paix par le droit, ses idées en sont très proches et il connaît bien Frédéric Passy. L'historien Jean-Pierre Rioux signale d'ailleurs que, face aux camarades et aux francs-maçons bouffeurs de curés, il dira toujours à la tribune de la Chambre sa foi en un Dieu de beauté et d'harmonie. En 1910, il déclare même « Je ne suis pas de ceux que le mot Dieu effraie. J'ai écrit il y a 20 ans sur la nature et Dieu un livre dont je ne désavoue pas une ligne, qui est resté la substance de ma pensée. Il avait en effet écrit en 1891 « Comment l'idée sainte de fraternité, de justice s'éveillerait-elle même au cœur des hommes si la nature dont les hommes font partie n'était dans son fond que brutalité, violence et matière ?» Et cette révélation de l'infini, sous la forme de la justice ayant ému les âmes humaines, elles comprendront mieux le rêve d'infini que le christianisme contient. C'est en ce sens que le socialisme pourra renouveler et prolonger dans l'humanité l'esprit du Christ.
Jaurès est venu 4 fois à Nîmes. 3 fois pour y conforter son parti en 1894-1903, devant 8000 personnes dans les arènes. 1910, pour le 7e congrès de la SFIO. Et le 1er septembre 1912, devant 4000 personnes dans les arènes, où il a évoqué le patriotisme des capitalistes embourbés dans le guépier marocain. La pratique de l'arbitrage doit entrer dans les rapports de nation à nation, comme celle de la justice est entrée dans les rapports des individus et des cités. Je n'ai pas un chauvinisme orgueilleux et je déteste ceux qui ne croient possible glorifier la France qu'en diminuant la part de génie des autres peuples. Il eut probablement l'occasion d'y rencontrer des membres de la paix par le droit, d'autant que son discours du 4 février 1910 au théâtre de Nîmes, en présence du protestant libéral De Pressensé, est aussitôt publié en brochure par l'imprimerie coopérative L'Ouvrière.
De fait, Jean Jaurès lutte contre la guerre les 10 dernières années de sa vie. En 1903, il déclare « L'unité ne pourra être instaurée que par la force de la justice rapprochant peu à peu les peuples dans une même liberté. Nous préparons par degrés, tout ensemble, l'universel désarmement et le règlement de tous les litiges par l'arbitrage international. Ce jour-là, ce sera la Fédération des Nations. Ce sera l'organisation de l'humanité, non pas d'une humanité uniforme, mais d'une humanité variée par le libre génie des nations autonomes et fédérées. » Il publie alors « Maudite soit la guerre », puis « L'alliance des peuples » en 1905.
Le 21 mars 1905, la loi Berthault, préparée par le général André, le défenseur de Dreyfus, supprime le tirage au sort, les paiements de remplacement et les exemptions. Désormais, tous les hommes sont appelés pour 2 ans pour un service égal et obligatoire. Pour Jaurès, cette loi des 2 ans est une étape peut-être nécessaire, mais ce n'est qu'une étape. Il est inutile, dit-il, d'immobiliser aussi bien pendant 2 ans que pendant 3 les forces vives d'une nation dans les casernes. C'est sur place, dans leur village, dans leur hameau, en plein air de liberté comme en Suisse, dont la petite armée fédérale fait l'admiration générale, que le soldat d'après-demain apprendra non plus à faire triompher les ambitions d'un monarque, d'un autocrate, mais à faire reculer l'envahisseur du sol natal.
Pour arbitrer entre les objecteurs de conscience et les représentants du pacifisme légal tels Passy et Richet, le secrétaire de la CGT, Nil, fait voter une motion de compromis où, admirant les actes de courage de ceux qui ne veulent pas porter les armes et affirmant d'autre part le principe de l'égalité devant la loi, déclare qu'il est incompétent pour indiquer une conduite quelconque dans des cas qui relèvent uniquement de la conscience individuelle.
Par ailleurs, sous l'égide de la Cour permanente d'arbitrage, une seconde conférence internationale pour la paix se tient à La Haye en 1907. 43 nations et près de 300 participants qui envisagent l'imitation des armements, des effectifs et des budgets militaires, ainsi que la mise en place de conventions dans le but de prévenir des conflits armés entre nations. La paix par le droit se réjouit de ces résultats tout en réclamant toujours une société des nations pour en assurer le contrôle. En effet, la Cour internationale de justice n'est toujours pas constituée, faute d'accord sur le mode de nomination des juges.
Charles Babu et son fils Henri, maintenant père de famille et pasteur dans l'Aisne, suivent ces débats avec grand intérêt. Depuis plusieurs années, Charles Babu échange sur le pacifisme par courrier avec Ernst von Drehander, prédicateur de la cour impériale, intéressé lui aussi par ce mouvement international pour la paix.
En 1910, Jaurès rédige une proposition de loi sur l'armée nouvelle, dans laquelle il préconise donc une organisation de la défense nationale fondée sur la préparation militaire de l'ensemble de la nation pour la constitution d'une armée populaire défensive de milices entraînées dans le monde civil lié à la nation en opposition à une armée de casernes.
Vers 1910, avec des principes bien établis de pacifisme juridique, Ruyssen et ses amis nîmois de la paix par le droit constituent donc une des composantes du courant du pacifisme bourgeois. Ils développent la comparaison classique entre les États et les individus pour appeler à passer à l'état de nature, de l'état de nature à l'état de société dans les rapports internationaux.
Il participe, en janvier 1912, à la création, rue Pierre Curie à Paris, du Bureau européen de la Fondation Carnegie pour la paix internationale, fondée à Washington en 1910 par le philanthrope écossais et avec Jules Prud'homo, comme secrétaire.
Retour dans mon courrier, j'ai reçu des papiers, j'en suis, je vous le dis, j'en suis resté tout pâle. On me disait tout de suite d'aller me présenter à la caserne qui se trouve dans mon quartier. Je m'en vais donc là-bas et je leur dis c'est moi, je viens ce matin pour voir de quoi qu'il tourne. On m'a donc fait entrer et je leur ai demandé à voir celui-là qui m'avait convoqué. Me v'là dans un bureau qui était pas ben beau. Y'avait, c'est vrai, une petite secrétaire avec un uniforme qui collait à ses formes. Je m'en suis senti bientôt ragaillardi. Mais il y avait aussi un militaire assis qui me dit, mon petit, ben, qu'est-ce que vous venez faire? Moi, j'y ai répondu, c'est qu'on m'a convoqué, monsieur soldat, c'est pour ça que je suis là. Il m'a dit, garde à vous. Eh ben, où vous croyez-vous? Je vois, ma foi, hein, vous êtes une forte tête. Vous asseoir devant moi, mais ça se passera pas comme ça. Debout, sans retard, ou je vous fourre au mitard. Moi, j'y ai répondu, je suis qu'un jeune conscrit. Y'a pas d'offense, si je connais pas l'usage. Je vous voyais assis, je me suis assis aussi. Voici, voici pourquoi j'agis ainsi. Je me suis relevé et je lui ai avoué que j'étais pincé pour sa petite secrétaire. Puis j'ai voulu savoir si elle sortait le soir et si les bleus avaient le jeudi pour eux. Il est venu tout noir, c'était pas beau à voir. Il s'est levé et m'a botté les fesses. Et puis il m'a conduit chez un ami à lui, un adjudant qui m'a fourré dedans. On m'a rééduqué toute la matinée. L'après-midi, j'ai balayé les chiottes et ça continuait pendant des mois entiers. Jamais, jamais, j'avais tant balayé. Quand je vois les autres gars marcher sans se tromper de pas, je me dis que moi, je suis un incapable. J'ai pas de coup au fusil et dans ma compagnie, on me dit que je suis le plus con des conscrits. Ils me l'ont répété pour faire un bon troupier. Obéissez aux officiers de carrière. Dubois est adjudant, il finira lieutenant. Pourvu qu'on trouve le moyen de vivre cent ans. Pour émerger du rang, un seul commandement, travail constant, devoir et discipline. Moi si pendant 20 ans je balaye les latrines, je vois pas pourquoi que je serais pas commandant.